Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Au lendemain, bonjour Céline, au lendemain d'une journée peut-être historique.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et maintenant, c'est un peu la grande question au lendemain justement de cette première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont réussi leur pari, plus d'un million de personnes dans la rue d'après le ministère de l'Intérieur et donnent déjà rendez-vous le 31 janvier pour remettre ça et faire plier l'exécutif qui pour l'instant ne bouge pas. Alors quel hiver, quel printemps nous attendent sur le front social? Ce sera évidemment le principal sujet de ce RTL Midi. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Réforme des retraites. Souhaitez-vous une manifestation chaque semaine? Dans l'actualité également, guerre des chefs et des nerfs au PS, les socialistes se déchirent, les occidentaux réunis en Allemagne pour décider d'accroître ou pas leur soutien militaire en Ukraine, des chars lourds peut-être, mais qu'est-ce que ça changerait sur le front? On en parlera dans une dizaine de minutes avec le général Dominique Trinquant.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui à Lamballe dans les Côtes d'Armor où la venue de drag queen à la bibliothèque fait polémique. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. On va parler jeûne aujourd'hui. Est-ce vraiment bon pour le corps de s'arrêter de manger? Et si oui, combien de temps? On vous dira tout. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi. Aujourd'hui, Chimène Badi chante Piaf.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Je vous propose cette question. Souhaitez-vous un référendum sur le projet de retraite?
Là aussi, c'est au 3210, là, c'est pas sur le site rtl.fr hein, qu'on confonde pas avec la question du jour. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, on va avoir quelques flocons encore, mais simplement dans le nord-est, et globalement on va vers le mieux, en tout cas le plus calme.
Et les prévisions complètes, ce sera à la fin du journal, merci Valérie.
RTL Midi.
1 120 000 personnes dans la rue hier, d'après le ministère de l'Intérieur. La première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites a donné le ton du bras de fer qui s'annonce et qui devrait rythmer notre hiver. Le prochain rendez-vous a déjà été fixé, vous le savez, au 31 janvier, une semaine donc avant l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. C'est là qu'un certain nombre de points pourraient être rediscutés, négociés. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour, bonjour à tous.
Est-ce qu'on sait déjà lesquels? Est-ce qu'on sait sur quoi le gouvernement pourrait lâcher du lest?
Oui, il y a quelques pistes, car la majorité le répète à tout bout de champ, il y a des améliorations possibles. D'abord, sur les carrières longues, la réforme prévoit que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans pourront partir plus tôt, 58 ou 60 ans. Mais pour ça, il faudra avoir cotisé 44 ans. 44 contre 43 pour tous les autres salariés, un point très critiqué à droite comme à gauche. Alors pour calmer le jeu, le gouvernement pourrait ramener à 43 ans la durée de cotisation pour tous. Autre mesure qui pourrait peut-être évoluer, l'index senior, vous savez, pour inciter les entreprises à garder les salariés de plus de 55 ans en publiant les chiffres de leurs effectifs. Dispositif jugé insuffisant pour les syndicats. L'exécutif propose par exemple de sanctionner les entreprises qui ont des mauvais résultats et non pas seulement celles qui ne les publient pas. Autre question, l'augmentation du minimum retraite à 1200 euros brut. Est-il possible de passer à 1200 euros net pour les futurs et actuels retraités? Il y a finalement peu d'écart entre les deux. Une évolution est envisageable, mais là, le ministère de l'économie devra sortir la calculette. Il est déjà très frileux car la mesure coûtera 3 milliards d'euros par an.
Merci Nerissa. La suite du mouvement, le front uni pour l'instant des syndicats, mais d'ailleurs pour combien de temps? Les réponses de l'exécutif, on y reviendra longuement à 12h40.
La politique, c'est aussi cet imbroglio digne des plus grandes heures du Parti Socialiste.
Un parti en crise est coupé en deux aujourd'hui. Grande confusion au lendemain du vote pour élire le premier secrétaire. La direction a beau assurer ce midi qu'Olivier Faure est bien réélu à la tête du parti, sa victoire est très contestée, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, car les deux camps s'accusent de tricherie. Un exemple parmi d'autres avec cette vidéo filmée par une militante pro-Nicolas Mayer-Rossignol hier soir à la Courneuve en Seine-Saint-Denis.
C'est scandaleux. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé. Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce dans laquelle je ne peux pas rentrer.
Mais chez Olivier Faure, on crie à la comédie. La militante se serait littéralement assise sur l'urne pour empêcher le vote. Et il a donc fallu la déplacer. Bref, tout ça vous montre le niveau de tension. Normalement, ça se règle dans une réunion de conciliation, les litiges. Mais là, vous voyez, c'est impossible. Un recomptage public est en cours au siège pour montrer la bonne foi de la direction sortante. Mais Nicolas Mayer-Rossignol n'en démord pas. Situation bloquée si aucune des deux parties ne fait un pas vers l'autre. Le dénouement aura lieu le week-end prochain à Marseille, où les délégués au Congrès doivent voter pour élire le prochain Premier secrétaire.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. On va suivre la suite du feuilleton avec vous.
Verdict attendu aujourd'hui à Lyon au procès du chauffard qui a tué Axel Daurier.
Cette jeune femme morte, oui, après avoir été renversée puis traînée sur 800 mètres par une voiture en juillet 2020, alors qu'elle fêtait son 23e anniversaire. Le conducteur a toujours expliqué avoir paniqué. Il assure qu'il n'imaginait pas que la victime pouvait être sous son véhicule. Des explications qui n'ont pas convaincu la famille d'Axel, leur avocat maître Gabriel Versini qui vient de plaider.
Je pense qu'effectivement, c'est un meurtre. Parce que l'intention coupable est là. On ne peut pas imaginer un seul instant que ces garçons n'aient pas eu d'intention coupable. On ne peut pas imaginer au fil du déroulé, du développé des événements factuels qui se sont déroulés, qu'ils n'aient jamais eu conscience de la volonté d'emporter avec eux cette jeune fille. L'intention coupable était là.
Pour vous, ils savaient qu'ils l'avaient percutée et qu'elle était sous la voiture.
Inéluctablement, inéluctablement. C'est un fait indéniable.
Ils ne se sont pas arrêtés.
Ils ne se sont pas arrêtés et quand ils se sont arrêtés, ils prétendent ne pas s'être mis sous le véhicule pour vérifier ce qu'il y avait, ce qui à mon sens était un mensonge, parce qu'ils ont fait un recul de 9,70 m. On ne fait pas un recul de 9,70 m sans regarder obligatoirement sous le véhicule. Qu'est-ce qui fait que le véhicule a des soubresauts pendant tout un trajet? C'est pas possible.
Vous espérez le maximum, c'est-à-dire 20 ans?
En tout cas, je l'aspire et j'appelle de mes voeux que ce soit ça.
Maître Versigny avec Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
RTL Midi.
Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux d'accélérer leur livraison d'armes pour, je cite, arrêter le mal.
Le président ukrainien s'adressait à leurs représentants réunis aujourd'hui sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour discuter justement de l'accélération de ce soutien militaire et notamment de l'envoi de chars lourds. Mais qu'est-ce que ça changerait sur le front? Rien, dit Moscou. On posera la question dans quelques minutes au général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Il sera notre invité après le journal. Le footballeur Dani Alves en garde à vue à Barcelone. Le Brésilien, ancien joueur du PSG, est entendu pour agression sexuelle présumée et des faits qui se seraient déroulés fin décembre dans une discothèque. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin pour un temps un peu plus calme quand même que ce qu'on a connu ces derniers jours.
C'est vrai, on a toujours aussi froid mais c'est quand même beaucoup plus calme. On a quelques flocons de neige qui circulent dans le Grand Est et ce sera le cas une grande partie de la journée. Quelques flocons en ce moment dans l'Yonne, l'Aube, la Meuse, la Marne ou encore les Ardennes, ça va bifurquer vers la Lorraine et vers l'Alsace. Ailleurs, on retrouve des éclaircies quand même pas trop vilaines, quelques averses à l'ouest et puis du plein soleil mais des vents très forts, Mistral et Tramontane dans le sud et ça c'est franchement désagréable, ça ramène bien du froid avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h de la vallée du Rhône jusqu'aux côtes provençales. Même chose dans le Roussillon. Quant aux températures, Mulhouse va plafonner à 3 degrés cet après-midi. Comptez 4 à Clermont-Ferrand, 6 à Paris, 7 à Tarbes et 8 degrés pour Caen comme à Perpignan.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
Nous allons partir pour Lamballe entre Saint-Brieuc et Guingamp. Lamballe où les bigoudaines ont disparu.
Alors... Oui, nous on va parler des drag queens, Pascal,
oui,
ça change un
remplacés.
Petit peu. Les drag queens qui sont attendues demain pour un spectacle de contes pour enfants à la bibliothèque de la ville. Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour et bonjour à tous.
Un événement prévu dans le cadre du festival Émancipé autour des questions d'inclusion et de lutte contre le sexisme, mais un événement dénoncé. Des groupes politiques comme la Manif pour tous ou le parti Reconquête ont lancé des pétitions pour demander l'annulation de cet événement qui fait décidément polémique et qui divise beaucoup en ville, Mathieu.
Oui, alors ici, en centre-ville de Lamballe, eh bien, cet événement est loin de choquer tout le monde. J'ai rencontré, par exemple, à la sortie de l'école, Séverine. Et cette jeune maman emmènera, justement, son fils de 6 ans aux lectures contées par des drag queens et à cet atelier maquillage.
Ça peut permettre à plein de gens, justement, de s'ouvrir un petit peu à ce milieu-là et dont les gens avaient peut-être peur ou qu'ils aimaient pas parce que c'était forcément ramoté à la communauté gay ou à ce genre de choses.
La pétition demandant l'interdiction de cet événement a recueilli près de 9000 signatures, Mathieu.
Oui, pétition lancée par Philippe Pleca, membre de VIA, la voix du peuple, menée par Jean-Frédéric Poisson, l'ancien parti chrétien démocrate fondé par Christine Boutin.
C'est l'apologie d'une sexualité débridée pour propager l'idéologie LGBT qui peut interpeller les jeunes enfants, ça peut contribuer à les déstabiliser.
Une polémique que ne comprend pas Mathieu Guiral de la compagnie Broadway French qui organise avec la bibliothèque municipale de Lamballe cette lecture.
Alors non, nous n'allons pas maquiller les enfants en drague, on y va plutôt en se disant on va les faire rêver en fait, c'est un côté très merveilleux d'avoir des personnages comme ça en couleur avec des costumes à paillettes et tout ça qui vont venir pour lire des histoires dans le cadre de valeurs qui sont contre les discriminations, contre le sexisme et en plus les enfants ils vont adorer.
Et le maire de Lamballe soutient l'initiative de la bibliothèque municipale et maintient l'événement qui se tiendra donc demain lors de la nuit de la lecture.
Merci beaucoup Mathieu Lopino à Lamballe, donc dans les Côtes d'Armor pour RTL.
Après la pause, une question, faut-il envoyer des chars à l'Ukraine? Et on va en parler avec Dominique Trinquant, que vous connaissez, qui est le général ancien chef de la mission française auprès de l'ONU et qui a commandé un régiment d'infanterie. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL midi.
Volodymyr Zelensky qui réclame des chars et des missiles longue portée aux Occidentaux réunis aujourd'hui sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour discuter justement de leur soutien militaire à Kiev. Pour en parler avec nous, Dominique Trinquant, bonjour.
Bonjour.
Ancien chef de la mission française auprès des Nations Unies et qui a commandé un régiment de chars, et c'est pour ça que votre expertise est précieuse aujourd'hui. Les chars lourds, c'est le gros point des discussions aujourd'hui en Allemagne. En quoi ils sont si importants aujourd'hui pour les Ukrainiens, ces chars ?
Eh bien écoutez, pour faire entendre raison à l'armée du président Poutine, il faut arriver à monter une nouvelle offensive qui permettrait d'enfoncer le front actuellement tenu par les Russes à la suite des fronts qui ont déjà été enfoncés à Kharkiv et dans la région de Kherson. Et pour ça, il y a besoin de renforcements à la fois en artillerie longue portée, mais blindés, parce qu'il faut des blindés pour monter une offensive. Et les chars demandés aux pays occidentaux sont des chars d'une qualité supérieure aux chars russes et donc qui pourraient réellement faire une différence.
Le Royaume-Uni s'est déjà engagé à livrer des chars, 14, je crois, 14 chars lourds. Et en même temps, on nous explique que c'est très long pour que ces chars deviennent opérationnels sur le front. Il faut former notamment les équipes pour pouvoir les manœuvrer. C'est pas pour demain, en fait.
Oui, en fait, ce qui est long, c'est surtout de mettre en place la logistique, les pièces détachées. Et c'est pour ça que le don, j'allais dire, de multiples chars très différents n'est pas une bonne solution. Il vaut mieux avoir un parc homogène, ce qui permettra de soutenir ces chars. Ensuite, sur la formation, les Ukrainiens, par exemple pour l'artillerie, avaient très bien fait en envoyant des artilleurs se faire former. Et ils ont été formés en un mois et demi. Donc si vous avez des tankistes qui sont envoyés pour être formés sur des léopards, par exemple, je dis ça au hasard, ça permettrait effectivement, en deux mois, d'avoir des tankistes formés sur des véhicules blindés. Et un parc homogène permettrait de les soutenir, ce qui permettrait une offensive ukrainienne, j'allais dire, à la fin du printemps.
La France hésite, hein, les alliés également. Pourquoi ?
Alors la France hésite pour des raisons essentiellement propres à la France. La France ne dispose aujourd'hui que de 200 chars Leclerc. Ces 200 chars Leclerc sont prévus pour être dans une division que la France fournirait à l'OTAN s'il y avait un problème. Donc si la France n'a plus ces chars, eh bien, elle ne remplit plus son rôle dans le cadre de l'OTAN. C'est pour ça qu'on s'adresse plutôt, j'allais dire, aux Allemands, parce que c'est le char qui a été le
c'est
plus vendu en Europe.
Ce n'est pas pour des raisons symboliques ou politiques, c'était un peu le sens de ma question.
Non.
C'est plus pour des raisons, tout simplement, on n'a pas assez de chars.
Oui, non, je pense que les raisons politiques ou symboliques sont dépassées aujourd'hui. En revanche, les chars allemands Léopard, ou, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler, des M1 américains, Abrams, sont des chars qui sont disponibles. Alors pour les Léopards en Finlande, en Espagne et en Pologne, qui proposent de les donner, voire dans l'armée allemande qui en a beaucoup, et puis les M1 Abrams qui sont stockés à Ramstein, qui pourraient être également donnés.
Pour être très clair, Dominique Trinquant, à aucun moment il n'est question pour les Occidentaux d'envoyer les tankistes avec les chars. On imagine d'envoyer que du matériel, pas les hommes qui savent le faire fonctionner.
Non, bien sûr, il s'agit, on le rappelle, c'est un champ en vase clos, c'est-à-dire qu'il a pour limite est la frontière russe, pour limite ouest la frontière de l'OTAN. Entre les deux, c'est de l'armement qui est fourni, ce sont les Ukrainiens qui combattent contre l'armée russe.
Nous, on a 200 chars, vous disiez que c'était peu, les Allemands par exemple ont combien de chars ?
Alors, en stock, il doit y en avoir, je ne sais pas, moi, 800 à peu près.
Pourquoi on a si peu de chars ?
Ah ben, écoutez, il faudrait poser la question aux gouvernements qui ont dirigé la France dans les 30 dernières années. Il était prévu, dans les années 90, 1400 chars Leclerc. Finalement, il y en a 400 qui ont été livrés, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 200. Et les chaînes sont arrêtées, et le prochain char qui doit rentrer en dotation, c'est le char franco-allemand, en espérant qu'on va accélérer un peu la fabrication, la conception et la fabrication. Il est prévu en 2040. Il faut se souvenir que le budget de la défense français a diminué pendant presque 25 ans. Et il n'a commencé à remonter qu'en 2017. Aujourd'hui, le président de la République parle de la nouvelle loi de programmation. On espère que ça va continuer sur cette lancée.
Effectivement, le chef de l'État qui s'adressera aux armées pour leur présenter ses vœux, ce sera à partir de 11h45 sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Notre correspondant Philippe de Maria est sur place. On vous fera vivre ces annonces, évidemment, dans le journal de 12h30. Merci beaucoup, Général Trinquant.
Merci, merci à vous.
On va marquer une pause, peut-être que vous êtes en train de déjeuner, peut-être que vous êtes en train de jeûner aujourd'hui, de sauter un repas. Eh bien, nous allons en parler. Est-ce que c'est bien le jeûne ? À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
À table ou pas, puisque plus d'un quart des Français jeûnent, selon un sondage Ipsos. Parmi eux, plus de 6 Français sur 10 sautent un repas ou plusieurs, et cela pour des raisons de santé. Une pratique qui est souvent discutée. Et pour en parler avec nous, le docteur Jacques Royer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, un des fondateurs de l'Académie médicale du jeûne. D'abord, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé de jeûner ?
Bien sûr, c'est bon pour la santé dans certaines conditions. C'est-à-dire que il faut que ce soit une durée raisonnable, le plus souvent, on va dire entre 5 et 10 jours. Il faut être accompagné par des professionnels qui sont formés, hein, sérieusement. À cet égard, en tant que médecin, moi je conseille de choisir les centres de la Fédération francophone de jeûne et randonnée, la FFJR. C'est une organisation professionnelle qui comprend plus d'une centaine de centres labellisés en France.
Mais quand vous dites entre 5 et 10 jours, c'est à quelle fréquence ? C'est pas 5 jours par semaine, on l'imagine ?
Bien sûr que non, c'est ce qu'on appelle le jeûne périodique. Il y a plein de façons de jeûner et chacun va trouver la sienne en fonction de son état de santé, en fonction de ses préférences. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle le jeûne intermittent, des gens qui font du jeûne périodique, c'est ce qui est pratiqué.
C'est quoi la différence entre les deux, s'il vous plaît ?
Alors, le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui peut se pratiquer, par exemple, au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, vous sautez le petit déjeuner, qui est souvent, chez nous, un repas qui est très sucré. Et donc, on prend juste une boisson chaude, sans lait, sans sucre, et ça permet de prolonger le repos digestif entre le dîner et le déjeuner du lendemain midi. Donc ça, c'est une question qui est une façon de jeûner très simple et qui a prouvé ses bénéfices.
Oui, mais alors ça, oui, quoi, si on jeûne entre deux repas, effectivement, le temps peut être limité. Mais on appelle jeûne, par exemple. Je fais un dîner le soir, je ne prends pas de petit déjeuner le matin, je ne prends pas le déjeuner le lendemain midi, j'attends le soir, on appelle ça jeûne.
Bah oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous déjeunez, vous interrompez le jeûne. C'est de là que vient le nom.
Non, mais je pensais que le jeûne, c'était sur une période de 3, 4, 5 jours. C'est ce que vous aviez commencé par dire. Quels sont les bienfaits du jeûne ?
Alors, les bienfaits du jeûne, enfin, ce qui est validé dans la littérature scientifique, parce que il y a des choses qui sont quelquefois alléguées, mais à l'Académie médicale du jeûne, nous, on s'attache à se baser sur ce qui est validé, ce qui est publié et qui a fait l'objet, d'ailleurs, de recherches qui sont extrêmement développées depuis, on va dire, grosso modo 50 ans, et particulièrement dans les 10 ou 15 dernières années. Hein, le nombre de publications est énorme. Donc il y a des bénéfices qui sont métaboliques, évidemment la perte de poids, hein, c'est presque un effet collatéral. Surtout la baisse d'une éventuelle résistance à l'insuline, par exemple l'amélioration du diabète de type 2, la normalisation des facteurs de risque cardiovasculaire, de paramètres cliniques comme la pression artérielle. C'est un effet qui est durable. Évidemment, la pression descend quand on jeûne, mais c'est quelque chose qui va se prolonger ensuite. Ce qui fait d'ailleurs que certains patients peuvent se passer d'un traitement antihypertenseur dans certaines conditions, ça a un effet anti-inflammatoire, c'est vraiment une cible privilégiée, les rhumatismes, des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou certaines maladies inflammatoires digestives, sous certaines conditions. Il y a des moments favorables pour jeûner et d'autres qui ne le sont pas. Ça renforce, ça normalise le système immunitaire, ça a des bénéfices qui sont psychiques aussi, il y a vraiment une vertu d'apaisement, d'amélioration de l'humeur, il y a beaucoup de dépressions qui sont améliorées de façon profonde et durable par la pratique du jeûne. Alors on parle là de jeûne plutôt périodique, c'est-à-dire, comme j'avais commencé à le dire, de l'ordre de 5 à 10 jours.
Alors, quand on jeûne, on a bien compris qu'on ne mangeait pas, mais on boit quand même. Qu'est-ce qu'on peut boire et à quel moment, deuxième question, il faut arrêter le jeûne? Est-ce qu'il y a des signes qui nous montrent que là, ça suffit, on va trop loin pour notre corps?
Tout à fait. Alors, la méthode qui est validée au plan médical, c'est la méthode du docteur Otto Buchinger. C'est-à-dire, c'est une méthode où il y a un petit apport, très très faible en calories, avec des jus de légumes et de fruits et un bouillon de légumes, pour apporter donc des vitamines et des sels minéraux. C'est associé à une activité physique, le plus souvent c'est de la randonnée, et ça s'adresse aux personnes en bonne santé, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie chronique ni de traitement médicamenteux. Si c'est le cas, il faut absolument un accompagnement médical, ce qu'on est en train de mettre en place avec les médecins de l'Académie médicale du jeûne.
Bah merci, parce que c'est passionnant de vous écouter. Il y a beaucoup de bienfaits. La fréquence idéale sur une année, vous recommanderiez combien de périodes de jeûne?
Alors, la fréquence idéale, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que y a des personnes qui se trouvent très très bien de jeûner une fois par an, une semaine. D'autres qui préfèrent deux semaines par an. C'est mon cas, je m'en trouve parfaitement bien de cette pratique.
À quel moment vous faites ça dans l'année?
Alors, le plus souvent autour des équinoxes de printemps ou d'automne, c'est-à-dire on va dire en septembre, octobre et en février, mars ou avril. Mais il y a des gens qui préfèrent jeûner l'été. Il y a
et
des
gens qui vont. Quand vous travaillez ou quand vous ne travaillez pas?
Alors, quand on jeûne, c'est vraiment une parenthèse qu'on prend pour soi-même. C'est pas un moment où on est. C'est pas qu'on est inactif, mais c'est quelque chose qui est une période plutôt de repos.
De repos et de réflexion peut-être.
Évidemment, mais aussi de repos pour soi-même.
De réflexion, de méditation, pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est quelquefois associé dans certains centres de jeûne de la Fédération francophone de jeûne et randonnée.
Et il faut le faire avec d'autres gens peut-être, c'est plus facile.
Alors c'est bien d'être en groupe parce qu'on bénéficie de l'effet groupe, on bénéficie donc de l'accompagnement professionnel. Je voudrais juste souligner qu'au sein de cette fédération, il y a vraiment une charte, un engagement, notamment, enfin de sérieux, il y a une formation professionnelle, mais il y a aussi un engagement de lutte contre les dérives sectaires, parce qu'on sait très bien que dans ce domaine, il y a quelquefois des dérapages.
Eh bien, merci beaucoup, docteur.
C'est passionnant.
Jacques Rouillet, effectivement, je ne vous garantis pas qu'on sautera le repas de midi, mais on a bien ces arguments qui défendent justement l'intérêt du jeûne.
Sujet passionnant, et peut-être de partir comme ça, quelques jours, en groupe, à la montagne, faire des randonnées. J'ai entendu des gens qui faisaient ces expériences. Emmanuel Carrère, je pense, a écrit également là-dessus, sur cette expérience. Vous pourrez nous donner votre avis, les auditeurs, tout à l'heure, entre 13h et 14h30, au 32-10. Il est 12h27, à tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12h30.
Céline Landreau et Pascal Praud.
L'heure de votre grande édition, Céline.
Cap sur le 31 pour les opposants à la réforme des retraites le mardi 31 janvier, deuxième grande journée de manifestation pour se compter une nouvelle fois, alors qu'hier les syndicats unis ont réussi à mettre dans la rue plus d'un million de personnes. Le bras de fer est engagé, il va durer, on en parlera longuement évidemment tout au long de cette édition. C'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Souhaitez-vous une manifestation chaque semaine contre cette réforme des retraites? À suivre aussi dans journal. Un million d'entreprises créées en France l'an dernier, c'est du jamais vu. Emmanuel Macron qui présente ses voeux aux armées françaises, alors que dans le même temps, les Occidentaux discutent d'un soutien militaire accru à l'Ukraine. Et puis l'inquiétude des betteraviers, alors que l'Union européenne ne veut plus de dérogation pour l'utilisation de néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves. Juste avant 13h, vous le savez, c'est LVT Midi, votre rendez-vous culture. Steven Bellery viendra nous parler de Chimène Badi qui reprend le répertoire d'Edith Piaf.
On question du jour.
J'en ai parlé, c'est sur la réforme des retraites. Exactement. Est-ce que vous souhaitez une manifestation chaque semaine? Et les auditeurs pourront répondre au 3210, Pascal.
Bien sûr, comme 46% des mariages qui se terminent par un divorce en France, ça sera également une des interrogations, figurez-vous, des auditeurs tout à l'heure.
J'ai pas bien fait le lien, mais vous nous expliquerez.
Il n'y en a pas.
La météo à la fin du journal, ce sera avec vous, Valérie Quintin. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Encore un petit peu de neige, quelques flocons qui vous saupoudraient le Grand Est, mais pour les autres, c'est quand même l'amélioration, toujours dans le froid.
Merci beaucoup, Valérie. Valérie, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'était un banal accrochage et il a viré au drame hier après-midi à Ronchin, près de Lille, où une femme de 86 ans a écrasé une sexagénaire avant de prendre la fuite. Franck Hanson.
Oui, les témoins évoquent les crissements de pneus, les cris au niveau de ce carrefour quand l'accident s'est produit. Une dame de 68 ans venait de faire ses courses quand elle voit que sa voiture a été percutée par une automobiliste plus âgée. Celle-ci aurait refusé de faire un constat. L'autre a tenté de l'arrêter avant de se retrouver sur le capot du véhicule. Marie, une maman du quartier, était sur place.
J'ai vu la dame se placer devant la voiture et essayer d'empêcher l'autre dame de partir. L'autre dame a démarré quand même. Elle s'est accrochée, elle a levé les jambes et elle s'est fait transporter sur une dizaine de mètres. L'autre dame a continué à rouler. Les voitures autour ont essayé de klaxonner pour arrêter la voiture, la personne aussi. Même essayer de faire barrager tout ça, mais ça s'est passé tellement vite. Je sais pas, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête? Surtout que c'est pas du tout le profil de personne auquel on s'attend habituellement dans ce genre d'accrochage. Enfin, pas une dame d'un certain âge. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait? Peut-être pas. Hein.
Les secours rapidement sur place n'ont pas pu ranimer la victime. La conductrice a été arrêtée une demi-heure plus tard. On ne sait pas ce midi si elle a paniqué ou si elle était en état de prendre le volant. Elle est toujours en garde à vue au commissariat de Lille.
Franck Hanson pour RTL. Un mort et deux blessés la nuit dernière lors d'une fusillade à Marseille. Il s'agit du premier décès par balle de l'année dans la ville. Les victimes ne présentent pas ou peu d'antécédents judiciaires, a indiqué le parquet.
RTL Midi.
Ils défilaient tous ensemble hier en tête de cortège et ce sont une nouvelle fois tous les syndicats qui appellent à la mobilisation le 31 janvier. C'est un mardi, cette fois, contre la réforme des retraites.
Un front uni, vous l'avez dit, mais jusqu'à quand? Car à l'heure d'imaginer la suite de la mobilisation et la forme qu'elle prendra, des tensions risquent d'apparaître entre les jusqu'au boutistes d'un côté et les autres. Tensions qui seront d'ailleurs probablement perceptibles dès cet après-midi à la SNCF, Arnaud Touche.
Oui, puisqu'une intersyndicale se tiendra à 14h pour décider de la suite du mouvement. Et tout le monde n'est pas d'accord à la SNCF. D'un côté, la CGT qui veut amplifier le mouvement avec pourquoi pas des actions et des jours de grève avant la journée nationale du 31 janvier et aller bien au-delà, et de l'autre, eh bien la CFDT ou encore l'UNSA qui veulent respecter l'unité syndicale décrétée hier soir au niveau national. Ils ne sont pas forcément pour des actions avant le 31 janvier, mais pourquoi pas après. Les discussions risquent donc d'être évidemment agitées, même si l'objectif est bien de maintenir la mobilisation alors que 46% des cheminots étaient en grève hier selon la direction.
Donc Arnaud, on saura ce soir si c'est une fin janvier compliquée qui s'annonce sur les rails.
Et surtout s'il y aura une grève avant le 31 janvier ou non. En effet, c'est peu probable à ce stade, sauf si la CGT cheminot y va. Ce qui est fort probable en revanche, c'est que les syndicats cheminots vont certainement s'accorder sur la suite du mouvement à donner après le 31 janvier et le type d'action à mener pour maintenir la mobilisation. Et celle du rail sera évidemment très scrutée.
Et on compte sur vous pour surveiller tout ça avec attention. Merci beaucoup Arnaud Touche.
Eux n'auront pas profité longtemps de la la belle mobilisation d'hier, quelques heures à peine après la dispersion des cortèges. Le PS, le Parti Socialiste, se dirigeait pour élire son premier secrétaire.
Et ce n'est pas fini, hein, même si le parti a annoncé en début de matinée la victoire du sortant Olivier Faure avec 50,83% des voix. C'est moins de 400 voix de plus donc, que son opposant, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, qui a immédiatement contesté les résultats.
Ici, la situation est bien tendue sur le front social. Toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises pour l'économie française.
Non, avec plus d'un million d'entreprises créées l'an dernier dans le pays, ça c'est un record. Et un chiffre, Martial Yeo, qui doit beaucoup aux auto-entrepreneurs.
Oui, 6 entreprises sur 10 qui ont été immatriculées l'an dernier sont sous ce statut auto-entrepreneur. Et en fait, il s'agit bien souvent de quelqu'un qui crée son propre emploi ou un emploi complémentaire, puisque le salaire moyen des auto-entrepreneurs est autour de 590 euros brut. Donc, ça fait plusieurs années qu'on voit que ce sont les auto-entrepreneurs qui portent les métiers à la hausse et les créations d'entreprises. C'est évidemment un statut un peu plus fragile et précaire que les autres types d'entreprises. Mais ça s'est sans doute accentué en 2022 avec la vague de démissions qu'on a connue et la volonté de changer de voie qu'on a observée après les confinements. C'est quand même une dynamique positive globalement et qui montre la bonne résistance de notre économie. Ça, c'est très bien. Il y a un bémol important à relever aussi dans ces chiffres. Sur la fin de l'année dernière, le nombre de créations a reculé. On observe évidemment une chute des créations de jobs de livreurs à domicile parce que pendant le confinement, évidemment, ça s'était beaucoup développé. C'était l'époque de la fermeture des magasins. Tendance à la baisse aussi pour les entreprises de ménage. Et de l'autre côté, au cours des derniers mois, une remontée des défaillances d'entreprises. Donc ça va peut-être se croiser.
Merci beaucoup, Martial Yeo.
Les Occidentaux se réunissent aujourd'hui sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour décider d'accélérer ou non leur soutien militaire à l'Ukraine.
Un soutien réclamé ce matin encore par Volodymyr Zelensky qui demande notamment des chars et des missiles longue portée pour, je cite, arrêter le mal. La guerre en Ukraine a évidemment rendu plus cruciale la question des moyens à donner à l'armée. Emmanuel Macron, qui présente actuellement ses vœux aux armées, le chef de l'État a commencé à s'exprimer sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, l'une des plus importantes de l'armée française.
La loi de programmation militaire traduit les efforts du pays en faveur de ses armées. Et ces efforts seront, dans les années qui viennent, à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables. Les menaces sont multiples et s'agrègent plutôt qu'elles ne se succèdent.
Philippe Demaria, on vient d'entendre les premiers mots d'Emmanuel Macron à Mont-de-Marsan à l'occasion de ses vœux aux armées. Le chef de l'État le disait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'adapter à des menaces qui évoluent.
Oui, le président Macron doit évoquer ici une loi qui doit rassurer et éclairer sur la façon dont la France défend ses intérêts dans un contexte de guerre sur le sol européen. La précédente loi a permis de dégager 295 milliards. La prochaine pour 2024-2030 doit largement dépasser cette somme déjà colossale, car après avoir réparé nos forces armées, il faut les transformer. Il faut plus de drones, plus de cyber, entretenir la force de dissuasion nucléaire et encourager les industriels à fournir plus de canons César, par exemple. Tout ça coûte évidemment très cher. La loi de programmation militaire pourrait être présentée au printemps pour une promulgation espérée symboliquement le 14 juillet prochain.
Philippe Demaria à Mont-de-Marsan, donc pour RTL.
On en vient à l'inquiétude des betteraviers après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui ne veut plus de dérogation pour les néonicotinoïdes.
Des pesticides, oui, accusés d'accélérer le déclin massif des colonies d'abeilles, mais qui protègent les betteraves de la jaunisse transmise par les pucerons verts. Et c'est donc pour protéger les rendements qu'une dérogation avait été accordée aux betteraviers. Des agriculteurs qui se demandent bien aujourd'hui, Samuel Goldschmidt, comment ils vont pouvoir continuer à travailler.
Et pour une raison très concrète, nous sommes le 20 janvier, les semis démarrent dans 2 mois et les semences sont déjà commandées dans la Marne à Angluzel et Courcelles. Alexis Leherl a prévu de consacrer 45 hectares aux betteraves sucrières.
On ne sait pas encore comment on va pouvoir semer. Moi, j'ai commandé mes semences au mois de décembre avec traitement de semences pour pouvoir protéger mes cultures. Donc là, aujourd'hui, pour 2023, on ne sait pas quelle sera la décision du ministère de l'Agriculture pour les nouveaux semis. Après, par contre, le risque, je vais semer des betteraves. Si je n'ai pas de traitement de semences NNI, ça veut dire que je vais être obligé d'utiliser des insecticides, clairement. S'il y a des pucerons dans mes parcelles, je serai obligé d'utiliser des insecticides en végétation et donc en utiliser beaucoup plus que les quelques microgrammes qu'il y a autour du traitement de semences.
C'est un casse-tête, hein. Les néonicotinoïdes désorientent les insectes butineurs, c'est un fait, mais les insecticides épandus en période de végétation sont sans doute encore plus néfastes, et sans produit, les rendements peuvent baisser de moitié, c'est ce qui s'était passé en 2020. Les betteraviers sont sans dessus-dessous depuis hier soir et attendent avec angoisse les suites de cette décision.
Samuel Goldschmidt pour RTL, merci. La météo à présent, on vous retrouve Valérie Quintin. Bon, ben
c'est mieux, ça s'arrange. Hein. Alors on a toujours aussi froid et puis ça va durer encore quelques jours, d'ailleurs toute la semaine prochaine. Mais sur le front des intempéries, ça se calme. On a quelques flocons encore qui vont voltiger cet après-midi sur le Grand Est. C'est le cas actuellement en Bourgogne ou encore en Champagne. Des flocons de neige qui vont se décaler vers la Lorraine et vers l'Alsace. Ailleurs, plutôt de belles éclaircies. Quelques averses quand même qui viennent un petit peu calfeutrer tout ça en Normandie ou encore en Bretagne. Et puis dans le midi, un grand et beau ciel bleu, mais il y a beaucoup de vent. Mistral et Tramontane vont atteindre 90 km/h cet après-midi du Roussillon à la Provence. Quant aux températures, on va atteindre 2 degrés laborieusement à Besançon au meilleur de l'après-midi, 4 à Dijon, 5 à Orléans, 6 à Paris et Rouen, 9 degrés pour Biarritz et 10 à Montpellier.
Merci Valérie.
Dans un instant, la réforme, la mobilisation et la suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
S'il faut arriver à ce qu'il y ait des grèves massives, fortes, dans tous les secteurs d'activité de notre pays, parce que le gouvernement s'entête, eh bien ça, on en arrivera à ça.
Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, ce matin sur RTL. Mais en attendant, ces grèves massives partout, la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera le mardi 31 janvier, à l'appel une nouvelle fois de tous les syndicats. Alors, quel hiver, quel printemps à venir sur le front social? Pour en parler avec nous, Martial Youx, chef du service économie ici à RTL. Rebonjour.
Bonjour.
Et Thomas Després du service politique. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
D'abord, revenons sur ce rendez-vous fixé hier par les syndicats, le mardi 31 janvier. Martial, l'enjeu, a priori, c'est d'avoir plus de monde qu'hier.
Oui, et c'est le risque aussi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entretenir la flamme et faire monter crescendo. Et pour ça, il faut des réservoirs. Hier, ils ont fait un énorme coup, c'est vrai. On a vu en 2000, j'ai regardé le 17 décembre 2019, il y avait 1,5 million de personnes dans la rue. Et après, c'est compliqué de grimper encore, et c'est ce qui avait fait le succès de 1995, c'est de démarrer correctement et puis petit à petit de continuer à grossir. Donc là, il va falloir effectivement trouver les ressources, garder ceux qui étaient là hier et puis aller chercher, peut-être chez les jeunes, peut-être dans le privé, de nouvelles.
J'entends ce que vous dites, mais au-delà de ça, c'est quoi la négociation? Qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir en négociant de ce conflit entre gouvernement et syndicats?
Là, c'est très compliqué parce que vous avez un totem qui est les 64 ans sur lesquels les syndicats ne veulent pas bouger, ni la présidence de la République. C'est-à-dire que il y a un truc très, très bête, c'est que Laurent Berger, qui est celui, a priori, avec la CFDT, avec qui on devrait, côté gouvernement, pouvoir négocier, il est mandaté par son gouvernement, le congrès de la CFDT, pour refuser toute loi qui intègre 64 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir.
Donc il n'y a pas de négociation possible.
Si le gouvernement dit on recule sur les 64 ans, ils ont tout perdu.
Pourquoi vous dites ça?
Eux.
Si le gouvernement dit 43 ans...
Thomas Després.
Mais parce que c'était le programme aussi d'Emmanuel Macron de repousser l'âge de départ à la retraite. À l'origine, c'était 65 ans, maintenant c'est 64 ans.
Mais s'il dit 43 ans de cotisation, ça ne suffit pas?
C'était déjà la loi Touraine avant même l'élection.
C'était pas du tout l'option, c'était pas ce pourquoi il a fait campagne. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron se dédie une fois de plus, parce qu'il a déjà fait quand même une fois en faisant un pas sur 64 ans, après, qu'est-ce qu'il reste de cette réforme?
Donc il n'y a pas de négociation possible.
C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué. Il y a des dossiers sur lesquels on peut discuter, on peut parler de la pénibilité, on peut parler des carrières longues, on peut parler de la situation des femmes, mais il y a ce fameux totem de 64 ans qui, pour l'instant, bloque tout. Et donc, la négociation, elle va se faire par le rapport de force dans la rue. C'est-à-dire que ceux qui manifestent, ils peuvent faire plier le gouvernement. Si, par exemple, les LR, qui aujourd'hui sont plutôt prêts à signer pour cette loi...
Alors que leurs électeurs ne sont pas derrière.
Mais voilà, mais qu'est-ce qui va se passer quand
pour ça les sondages électeurs LR ne suivent pas la direction.
C'est pour ça que ça va jouer là.
Est-ce que LR va rester? C'est une question aussi de savoir si finalement, on voit en ce moment qu'en interne, ça commence déjà à se fracturer entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Si les LR finalement décident de dire cette réforme, elle n'est plus juste, là, ça va commencer à devenir très compliqué.
Donc il y a un essoufflement possible du côté de ceux qui s'opposent à cette loi, si jamais on n'arrive pas à les garder dans le mouvement. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il y a une résistance très forte.
D'où la stratégie des syndicats, c'est pas simplement peut-être les manifestations, c'est de faire aussi des mouvements, parce que d'ici le 31 janvier, on va savoir aujourd'hui ce qui se passe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais on va être très clair, sur le 31 janvier, le gouvernement anticipe déjà que ça va être une grosse mobilisation, peut-être même plus importante.
Mais d'ici le 31, on est aujourd'hui le 20, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, vous avez des fédérations syndicales qui sont organisées, qui savent gérer des mouvements sporadiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir, les raffineries l'ont déjà dit, des mouvements qui se passent ici ou là. Vous pouvez avoir, à la SNCF, par exemple, la possibilité, c'est sans doute pas ce qui va se faire d'ici le 31, mais peut-être après, la possibilité de faire une grève tournante, c'est-à-dire un jour, vous avez les contrôleurs qui font grève, le lendemain, vous avez le personnel de guichet, après, vous avez ceux qui sont conducteurs et qui font que les trains ne roulent pas pendant plusieurs jours. Vous voyez, vous avez cette possibilité, mais il faut justement, c'est une guerre.
Quel est le climat à l'Élysée ? Parce que M. Véran, qui est parfois une boussole qui donne le Sud, avait dit, je ne crois pas qu'il y aura une mobilisation. Bon, à l'arrivée, il y avait hier quasiment un million et demi de personnes. C'est quoi le climat ?
Un conseiller hier reconnaissait, les syndicats ont réussi leur pari.
Oui, mais est-ce que l'Élysée est surpris, inquiet, veut changer ?
Pour le moment, ils sont droits dans leurs bottes. Ils ne veulent pas bouger. Pour le moment, ils se disent on attend, on va voir. Et la question, c'est une troisième, une quatrième manifestation, si ça se produit dans le temps. Et ils ont le temps pour eux, parce que la mobilisation, elle peut être très courte à l'Assemblée aussi.
Et on le rappelle, l'arrivée du texte à l'Assemblée, c'est prévu le 6 février. D'ici là, on imagine pas vraiment de reculade gouvernementale, Thomas.
C'est très difficile. Toutes les avancées que le gouvernement dont le gouvernement ouvre la porte jusqu'à présent, c'est pour le débat parlementaire, donc pas avant le mois de février. Tout dépend s'il y a beaucoup d'amendements et que le débat peut avoir lieu à l'Assemblée.
Eh bien, je pense qu'il devrait écouter les auditeurs en la parole. Parce que quand on entend des témoignages de femmes de ménage, de plaquistes, de gens qui sont en difficulté, qui sont fatigués, qui sont crevés, pardonnez-moi, physiquement, et qui viennent dire « je ne veux pas travailler 2 ans de plus », ça s'entend. Et si le gouvernement n'entend pas ça, c'est peut-être dommage.
Mais je n'ose imaginer, Pascal, qu'il ne nous écoute pas.
Je pense qu'ils ne nous écoutent pas du tout, parce qu'ils sont parfois, hélas, déconnectés. Ils sont dans des déjeuners à cette heure-là, alors qu'ils devraient écouter, les auditeurs ont la parole. Il est 12h49, à tout de suite.
RTL Midi.
Céline Landreau et Pascal Pro. RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Param, param, param. Mais je t'aime de 14 juillet. Param, param, param.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, Chimène Badi qui rend hommage, vous le savez, à Édith Piaf.
Le 10 octobre, on célébrera les 60 ans de sa disparition. À cette occasion, Chimène Badi lancera dimanche à l'Olympia à Paris une tournée hommage à la môme. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Chimène Badi qui publie aussi aujourd'hui un album de 12 reprises.
Chimène chante Piaf, un projet dont l'artiste rêvait depuis des années. Pourtant, Chimène Badi a voulu attendre le bon moment pour se frotter au répertoire mythique d'Édith Piaf.
Pour être authentique, il me fallait un minimum de vécu pour pouvoir incarner au plus juste possible les textes des œuvres d'Édith Piaf. Je ne me voyais pas chanter à 25 ans, non, je ne regrette rien. À 40, c'est plus simple quand même. Et lors du premier confinement, je me suis mise à réécouter beaucoup Édith.
Comme une Madeleine de Proust.
Exactement. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mes producteurs de spectacle, avant même d'appeler qui que ce soit d'autre, pour leur dire, je viens de prendre une décision, mon futur spectacle, ce sera un hommage à Édith Piaf. Alors, est-ce que vous voulez me suivre ou pas ? Les choses ont commencé comme ça. J'ai écouté mon cœur et mon envie de me faire du bien en chantant Édith Piaf, tout simplement. J'en avais besoin et moi, je vibre là en ce moment. Ce qui est important, je pense, dans la vie d'un artiste, je parle même pas d'une carrière là, je vais plus loin. Dans la vie d'un artiste, c'est important de vibrer. Et des fois, dans nos carrières, on ne vibre plus. Moi, là, quand je chante, je vibre, je vis, je ressens, ça me fait du bien. Et j'avais besoin de ces textes, j'avais besoin de les chanter. Et c'est le bon moment, c'est maintenant.
C'est évidemment très piégeux, mais ça passe hein, sur ce qu'on entend.
Elle ne prend pas les pieds dans le tapis, je trouve qu'elle réussit plutôt bien le pari. Ouais.
Derrière le projet marketing, il y a évidemment un projet de cœur, Steven.
Oui, Chimène écoute Édith Piaf depuis qu'elle est toute petite.
J'avais, je sais pas moi exactement, mais entre 4 et 5 ans. J'avais mon petit baladeur, mon petit Walkman que mon oncle m'avait offert, jaune. Et ma mère, elle avait plein de cassettes. De Ferrat, de Brassens, de Brel. Et j'ai pris une cassette au hasard, en fait. Et je suis tombée sur la chanson « Mon Dieu ». C'est comme ça que j'ai entendu Edith Piaf pour la première fois, devant la cheminée de mes parents. C'est un bouleversement, c'est une émotion très forte. En même temps, je suis toute petite. Donc, mon Dieu, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens un profond désespoir, je sens de la tristesse.
Vous avez souvent refusé de chanter « Mon Dieu » à la télé, par exemple. Mmh. C'était un intouchable, cette chanson, pour vous? Parce que c'est la première que vous aviez entendue ou pas?
Je pouvais pas la chanter parce que, en fait, la première émotion que ça m'a procurée, c'est de la douleur, au départ, cette chanson. Cette puissance, ce vibrato spécial. J'ai jamais réussi à chanter cette chanson, j'y arrivais pas. Et quand on a enregistré l'album Hommage, j'ai parlé avec Tiborg, le réalisateur, et il a fait un arrangement extraordinaire parce qu'il y a apporté énormément de lumière. Et en fait, j'ai senti cet espoir vraiment fort et je suis allée derrière le micro et j'ai posé ma voix une fois. On a gardé la première prise.
Chanson écrite pour la mort de Cerdan, hein, bien sûr. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu.
Il faut l'envoyer quand même.
Oui, ça c'est sûr. Ce projet, Steven, il marque aussi les 20 ans de carrière de Shimon Badi.
Oui, révélé par Popstar sur M6, Shimon Badi écoule dans la foulée 500 000 exemplaires de son premier album Entre Nous. Shimon qui vient aussi de fêter ses 40 ans, même pas peur.
C'est un âge, quoi. Et puis moi, en vrai, je me sens mieux maintenant qu'à 20 ans. 40 ans, c'est cool. Enfin, je sais pas, moi, je me sens bien dans mes pompes. Je me sens à ma place. Pas de problème avec le fait de vieillir physiquement, tout ça. Ça me dérange pas du tout parce que, eh ben, justement, un visage, il a besoin d'avoir des signes d'existence. Et ça, pour moi, c'est important. Un visage qui raconte rien, ça m'intéresse pas. Je suis tatie, je m'éclate avec mes neveux. J'ai des amis formidables, j'ai une famille extraordinaire. Je vais bien, tout va bien. C'est cool, 40 ans, c'est rien. Et puis, il me tarde les 50, il paraît que c'est encore mieux.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes.
Shimon chante Piaf, l'album sort aujourd'hui. Elle chantera le 27 janvier à Lille ou encore les 27 et 28 octobre aux Folies Bergères à Paris.
On est convaincu, hein. La vie en rose, c'était écrit également pour Cerdan.
Ah, mais c'est surtout une chanson écrite par Edith Piaf.
Oui.
L'une des premières à avoir écrit ses propres chansons.
Vous vouliez également rendre hommage à David Crosby, qui est mort cette nuit à l'âge de 81 ans.
Ouais, grande voix du rock'n'roll, membre du mythique groupe Crosby, Stills, Nash & Young. Il avait fait ses débuts avec les Byrds. Producteur des premiers albums de Joni Mitchell, il participa à Woodstock en 1969 avant de se lancer en solo et avec sa super formation. David Crosby, reconnaissable à ses longs cheveux, a participé à la fusion du rock avec la folk américaine. Sa voix pure et agile n'a jamais été altérée par les abus et la drogue qu'il a consommée, mais en très grande quantité. Survivant des folles 60s, David Crosby a continué de tourner dans le monde et d'enregistrer. Il avait publié 5 albums solo depuis 2014.
Merci beaucoup, Steven Bellery.
Il est 12h58, vous allez pouvoir évoquer, pourquoi pas, et Edith Piaf dans une seconde. Et puis la réforme des retraites, bien évidemment, à tout de suite.
RTL Midi.